le bien-être animal pour le bien-être de l'éleveur. Je suis Céline Potepièce, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture.
Bonjour Céline, nous voici réunis pour un nouvel épisode de notre podcast B2E, le dernier de cette série. De quoi parlons-nous aujourd'hui ?
D'éthologie ! Et pour changer un peu, pas avec moi, nous allons rejoindre Amandine Cosnard, éthologue conseil. Qui de plus pertinent qu'une éthologue pour parler d'éthologie ? Nous avons déjà évoqué dans les épisodes précédents les émotions animales et la conscience, qui sont aujourd'hui des sujets de recherche. Je connais Amandine pour avoir travaillé ensemble sur un projet de recherche sur le bien-être des volailles, car c'est une partie de son métier. L'autre partie est de partager cette connaissance, notamment en formation d'étudiants, mais aussi d'éleveurs. D'ailleurs, elle intervient à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire dans les formations référents bien-être animal. Et ces moments d'échange sont très appréciés. Je vous laisse donc entre de très bonnes mains.
Bonjour Amandine, pouvez-vous nous dire en quelques mots et avec des exemples ce qu'est l'éthologie et comment vous la pratiquez ?
L'éthologie, c'est d'abord une science qui étudie le comportement, mais qui l'étudie sous différents angles afin de le comprendre dans sa totalité, et c'est vraiment ce qui est important à retenir dans l'éthologie. C'est-à-dire que l'éthologue va aller chercher quelles sont les origines évolutives du comportement. Ensuite, comment ce comportement-là s'est construit chez l'animal ? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt appris ou est-ce que c'est quelque chose d'inné ? L'éthologue peut également rechercher ce qui déclenche le comportement, là, maintenant, tout de suite, dans l'immédiat. Et enfin, on va se poser la question de savoir à quoi ce comportement est utile pour l'animal, quelle est sa fonction ? Et en fait, sans réponse à toutes ces questions, eh bien, la compréhension du comportement est incomplète et l'interprétation risque d'être faussée. Lorenz, qui est l'un des pères fondateurs de l'éthologie, a dit ceci : les éléments d'un système complet ne peuvent être compris que dans leur totalité, ou alors pas du tout. Et en fait, cette citation-là, elle est très inspirante pour moi. C'est aussi ma ligne de conduite à chaque fois que je fais des recherches pour comprendre un comportement. Donc pour donner des exemples plus concrets, l'éthologue va chercher à comprendre le comportement en tenant compte du milieu d'origine dans lequel ce comportement a été façonné. C'est-à-dire quelles sont les pressions que l'animal a subies qui font que la sélection naturelle a conservé tel ou tel type de comportement. Par exemple, la canne de Barbarie affectionne les nids fermés sur le dessus. Dans son habitat naturel, elle niche de préférence dans des trous d'arbres, parce que ses prédateurs naturels sont plutôt terrestres. L'éthologue va également s'intéresser à la part innée ou acquise du comportement, c'est-à-dire apprise. La canne est de manière innée attirée par un lieu plus sombre que le milieu ambiant. Mais innée ne veut pas dire systématique. L'animal n'est pas un robot, c'est pourquoi le scientifique tient également compte de l'environnement immédiat de l'animal. Si l'on propose un nid fermé sur le dessus à une canne de Barbarie, mais qu'il y a des courants d'air, elle pourrait montrer une préférence pour pondre au sol. De même, un nid trop sombre n'attirera pas la femelle pour la simple et bonne raison que ça lui fait peur, et qu'elle ne pondra pas dans un lieu qui lui évoque un danger. On en arrive au quatrième et dernier filtre de lecture, quelle est la fonction du comportement ? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'expression du comportement apporte en termes de bénéfices à l'animal ? Dans le cadre de cet exemple sur la canne, le nid assure la protection des œufs et de la femelle. La femelle ne pond pas des œufs pour faire des œufs, mais bien dans le but ultime de faire naître des canetons. C'est très coûteux pour elle de pondre, de couver. Elle a donc tout intérêt à choisir un lieu qui assurera la meilleure protection possible à ses petits, comme à elle, contre à la fois les aléas climatiques, contre les attaques de prédateurs, mais également contre les perturbations des congénères. Si chez la canne Barbarie, la tolérance est de mise, ce n'est pas le cas de la canne Pékin. En bâtiment d'élevage, une canne Pékin ou même une poule préférera pondre dans la litière que sur une zone dédiée à la ponte si elle est harcelée par des congénères.
Alors quel est le lien entre l'éthologie et le bien-être animal ? C'est-à-dire comment l'éthologie va permettre d'améliorer le bien-être dans les élevages ?
Eh bien dans le monde de l'élevage, la notion de bien-être animal est de plus en plus présente. Avoir des animaux en bonne santé et qui produisent bien n'est plus perçu aujourd'hui comme un gage de bien-être animal. Le bien-être animal, on le sait maintenant, c'est multifacette, avec une approche de la santé physique, certes, mais également mentale. Et pour ce faire, pour que l'animal se sente bien, physiquement et mentalement, l'environnement de l'animal doit lui permettre de répondre à l'ensemble de ses besoins, qu'ils soient physiologiques ou comportementaux.
Oui, mais c'est quoi un besoin comportemental ? Et est-ce que tous les comportements sont des besoins ?
Dans chaque espèce a des comportements qui lui sont propres. Par contre, tous les comportements ne sont pas des besoins. Certains sont par exemple des comportements appris ou qui sont une réponse à une situation donnée. Pour donner un exemple, se gratter suite à une piqûre d'insecte chez un bovin n'est pas un besoin comportemental, c'est une réaction à une situation donnée. En revanche, l'entretien de son corps correspond à un besoin comportemental. Les bovins ont besoin de se nettoyer et ils le font de différentes manières, en se frottant contre un arbre par exemple ou en pratiquant le toilettage mutuel avec un congénère. D'un point de vue pratique, mettre des brosses en accès libre à des bovins leur permet de ressentir des émotions positives comme la joie et ça leur permet également de se sentir apaisés. Donc en cas de situation stressante, on a des animaux qui sont capables de mieux tolérer cette situation stressante.
Alors à quoi peut servir l'éthologie en élevage ?
On vient de le voir, comprendre les origines d'un comportement permet de fournir un environnement où l'animal se sent bien, où il peut satisfaire les besoins essentiels à sa survie, comme les besoins physiologiques, manger, boire, se protéger, mais où il peut également satisfaire des besoins comportementaux, se gratter, se percher, fouiller le sol, avoir des interactions sociales. La satisfaction de ces besoins comportementaux permet aux animaux de ressentir des émotions positives, et donc d'être dans un meilleur bien-être animal, mental, mais également physique. Donc les animaux d'élevage qui ont un milieu de vie enrichi, autrement dit qui vivent dans un environnement plus stimulant d'un point de vue cognitif ou social, ont une meilleure perception de leur environnement. Ils se montrent moins peureux des situations nouvelles, on pourrait dire en quelque sorte qu'ils sont moins pessimistes. Ils s'adaptent mieux en d'autres termes. Et les effets délétères du stress sur la santé et sur les performances sont donc atténués.
Est-ce que la prise en compte des besoins comportementaux de l'animal va avoir des conséquences d'un point de vue économique sur l'élevage ?
Alors j'ai envie de dire oui, mais ça se voit pas forcément dans l'immédiat. Au premier abord, satisfaire les besoins comportementaux des animaux peut paraître coûteux sur le plan économique ou sur le temps passé pour un éleveur. Les bénéfices sur la santé ou les performances ne sont pas toujours perceptibles immédiatement. Pourtant, le bien-être animal et les performances ne sont pas incompatibles. Ils sont même liés complètement. Le tout, c'est de trouver le bon compromis pour l'animal et pour l'éleveur. Parce qu'on le sait, le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur sont également liés. Mais ça, c'est un autre sujet. Si on reprend l'exemple du besoin comportemental d'entretien du corps, les volailles, comme les poules, les dindes ou autres, se nettoient en se pouillant, c'est-à-dire en prenant un bain de poussière. Pour cela, il leur faut un substrat qui leur permet quelque chose d'un peu sableux, friable et sec. On peut se dire que, bon, entretenir la litière, ça prend du temps, ça coûte aussi un peu d'argent et que les bénéfices ne sont pas flagrants. Pourtant, bien entretenir son plumage est essentiel pour une volaille. Ça lui permet de se débarrasser des parasites, d'avoir des plumes souples, donc moins cassantes, on réduit ainsi les risques de cannibalisme, surtout sur une période de plumes en croissance. Avoir un plumage bien entretenu et bien organisé grâce au lissage qui fait suite au bain de poussière, c'est aussi avoir une meilleure protection contre les agressions physiques, ainsi qu'une meilleure protection contre le froid. Un animal au plumage sain consomme moins d'aliments et présente moins de lésions sur sa chair, donc potentiellement c'est un animal qui aura moins de risques d'être déclassé à l'abattoir.
Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple dans une autre production que les volailles ?
Oui, bien sûr. Par exemple, les truies construisent un nid avant la mise bas. Leur donner accès à des matériaux permet de réduire le stress et l'agitation des truies. Les études ont montré que sans apport de matériaux, les truies effectuaient quand même les mouvements à vide, avec leurs pattes, avec leur tête. Ça prouve bien que le besoin est fortement motivé, et que même en l'absence de matériaux, il va être réalisé. Donc on peut se dire, puisqu'il se réalise sans matériaux, pas besoin de mettre de matériaux. Sauf que sans matériaux, les truies font leur nid plus longtemps, elles se mettent plus souvent debout, elles changent plus fréquemment de posture, et on sait que ces comportements-là augmentent fortement le risque d'écrasement des porcelets.
Donc l'éthologie peut permettre d'accompagner les éleveurs et les organisations de production vers des modes d'élevage permettant aux animaux de satisfaire leurs besoins.
Oui. Après l'éthologie, elle peut également aider les producteurs à comprendre et à limiter l'expression de comportements gênants, comme le piquage des plumes ou la pontornie chez les volailles, la caudophagie chez le porc ou même les stéréotypies chez les chevaux ou chez les bovins.
Qu'est-ce que vous entendez par stéréotypie ?
Alors une stéréotypie, c'est un comportement qui ne fait pas partie du répertoire comportemental de l'animal à l'état naturel. Par exemple, dans les stéréotypies des chevaux, on peut avoir le tic de l'ours. C'est un cheval qui va se balancer d'un côté ou de l'autre. Ou le tic à l'appui, il va passer son temps à mordiller le bord de son box, par exemple. Ça n'existe pas à l'état naturel, mais ça peut être fréquemment exprimé par des animaux en élevage.
Donc c'est un signe de mal-être de l'animal ?
Oui, il y a quelque chose qui se passe et qui ne lui va pas. Et donc, pour conclure sur cette partie-là, En ayant une compréhension globale du comportement, d'où il tire son origine, la fonction qu'il a pour un animal, dans quel contexte il peut apparaître, il est alors possible de prédire ce comportement et donc de mettre en œuvre les moyens préventifs ou curatifs pour limiter l'expression du comportement non désiré et surtout limiter les conséquences négatives à la fois sur les performances ou sur la santé des animaux.
Pour finir notre entretien, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous exercez votre métier ?
Alors, quand je connais la réponse à la problématique qui m'est demandée, je partage mon expertise afin de trouver des solutions aux problèmes de mes clients. En revanche, lorsque les réponses sont encore inconnues, eh bien je pratique l'éthologie de manière appliquée, c'est-à-dire que j'utilise les connaissances fournies par la littérature scientifique, ainsi que des données que j'ai récoltées sur le terrain, pour comprendre les comportements émis par les animaux. Je fais donc un travail de recherche et d'observation. Au-delà de cela, j'accompagne également mes clients à mener leurs propres essais pour récolter un maximum de données. Et j'interviens également sur la partie formation au sein d'écoles ou bien auprès de professionnels de l'élevage. J'ai ainsi animé des formations référents bien-être animal avec la Chambre d'agriculture, mais également au sein d'organisations de production.
Où est-ce qu'on peut vous trouver si on est intéressé ?
Alors pour me trouver, j'ai une page LinkedIn à mon nom, donc Amandine Cosnard, et j'ai également un site internet par lequel on peut me joindre.
Une précision, ça s'écrit comment, Cosnard ?
Alors ça s'écrit C-O-S-N-A-R-D.
Merci Amandine.
Merci Isabelle.
Bonne fin de journée à vous. Cette série est terminée. Nous espérons que cette histoire du bien-être en élevage et ses exemples concrets vous a intéressé. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter et même partager tous les épisodes de B2E sur votre appli préférée.